Voilà, 18h passées de 7 minutes, c'est la fin de la première partie de cette édition, la suite consacrée au magazine. Alors ce soir, on reçoit Monsieur Christos Doulkeridis, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez 42 ans, vous êtes secrétaire d'État de la région bruxelloise, 21e candidat sur la liste Chambre Bruxelles-Alvilvorde. Alors dans l'actualité aujourd'hui, donc plus de 10 personnes sont donc mortes lors de l'arraisonnement mené par des commandos israéliens contre le convoi d'aide internationale de 6 bateaux qui étaient en route pour la bande de Gaza. L'Union européenne demande, je cite, une enquête complète sur l'abordage. Alors, je cite donc un communiqué sur la homepage du site d'Ecolo. Donc, Ecolo entend exprimer son indignation face à l'attaque criminelle perpétrée par l'armée israélienne en l'encontre de la flottille internationale, acheminant donc de l'aide et du matériel de construction à destination de Gaza, ainsi que des centaines de militants pro-palestiniens, dont 5 Belges et des députés de différents pays européens. Ne croyez-vous pas qu'avant toute condamnation, il eût été utile de faire d'abord toute la lumière sur l'affaire, car à l'heure actuelle, la situation reste quand même très confuse et l'armée israélienne a maintes fois confirmé aujourd'hui qu'elle avait été attaquée dès le début de l'arraisonnement à l'arme blanche et à l'arme à feu. Quelle est votre position ?
Oui, je comprends votre point de vue. Moi, je ne me suis certainement pas exprimé là-dessus parce que ce n'est pas un dossier que je suis de près et que j'essaye de n'être jamais imprudent. Je constate que les condamnations ont été faites en Belgique de la part de tous les partis démocratiques. Il y a eu le MR, le FDF, le PS, effectivement, Ecolo, le CDH ont été plus ou moins dans le même sens. Il y a une espèce de
par
réaction...
Site, par site internet, en tout cas, c'est CDH et PS, le MR...
Ça, je peux vous dire que Louis Michel est intervenu, que le FDS, si vous allez voir,
oui,
leur site,
le site,
est aussi intervenu. Et donc, politiquement, je veux dire, tous les partis démocratiques ont, du côté francophone, en tout cas, réagi plus ou moins dans le même sens. Je ne sais pas... Alors, je pense que ce qui est évidemment choquant, dans l'image telle qu'elle est ressentie, c'est une armée qui tire sur des civils. Alors, je comprends aussi que ça fasse l'émotion un peu dans de l'autre côté, du côté d'Israël. Chaque fois qu'il y a des victimes, et c'est le cas de la part des deux côtés du conflit, on se souvient de ses propres victimes injustes, qui sont toujours injustes. Et donc, finalement, quelle que soit la situation concrète, moi, ce que je constate et ce que je crains au plus profond de moi-même, c'est que cet acte, justifié ou pas, chacun aura son interprétation et voilà, les faits, l'examen des faits devra montrer exactement ce qui s'est passé, mais ne va que contribuer inévitablement à un regain de violence dans une région qui n'avait évidemment pas besoin de ça. Et donc, ce que je veux surtout faire passer comme message, c'est d'abord vraiment repenser une nouvelle fois à l'ensemble des victimes de part et d'autre et à leur famille et à cette volonté et à cette énergie qui doit absolument être déployée de toutes parts, et surtout aussi avec l'aide de l'Union européenne, pour essayer de réamorcer un processus qui sert à sortir de cette violence, à sortir de cette souffrance qui maintenant dure depuis tellement longtemps. Je crois que c'est là-dessus qu'on doit focaliser nos énergies. Et je n'ai pas l'impression, mais en regardant les actes tels qu'ils sont décrits maintenant, que ça va contribuer forcément à aller dans ce sens-là, malheureusement.
Mais par contre, on est bien d'accord qu'avant toute conclusion hâtive, il faut attendre les résultats de l'enquête.
Voilà, mais donc j'imagine que chacun s'est exprimé en fonction des informations qui étaient en sa possession. Oui. Voilà, moi je vous dis, c'est pas un des dossiers, vu mes compétences à l'échelle bruxelloise, que je suis particulièrement, j'évite de m'exprimer de façon imprudente. Je commente simplement la réaction de celles et ceux qui se sont exprimés jusqu'à présent. À mon avis, c'est ça qui a guidé. Mais en tout cas, il me semble juste de pouvoir déjà dire que malheureusement, ce qui s'est passé, quelle que soit la justification qu'il a portée, ne va sans doute pas aider à sortir de cette situation qui est totalement épouvantable sur le terrain pour les deux communautés qui sont évidemment présentes.
On vous a bien entendu. Alors on va venir maintenant sur l'actualité belge, si vous le voulez bien. Alors le gouvernement donc est tombé à cause du dossier BHV. Du coup, ce dernier en affaires courantes ne peut mettre en place les réformes qui s'imposent, notamment en matière d'emploi ou au niveau social. Des réformes pourtant nécessaires, surtout dans un contexte de crise. C'est donc le citoyen qui paye. Alors en plus, peu de gens saisissent toute la complexité institutionnelle de notre pays. Bref, quand on interroge l'homme de la rue, c'est un peu le ras-le-bol général. Les gens ne sont pas très emballés d'aller voter. Alors vous, Christos Doulkeridis, que diriez-vous à nos auditeurs ce soir soir pour les motiver à se rendre aux urnes le 13 juin prochain.
Mais non seulement le fait d'avoir fait tomber le gouvernement, de la part de ceux qui l'ont fait tomber, ne disons pas que tous les partis ont contribué à faire tomber ce gouvernement. C'est certainement l'OpenVLD qui a décidé de sortir de la majorité. Et du côté néerlandophone, d'autres partis qui ont continué à mettre de la surenchère dans les exigences qui étaient portées dans un dialogue qui devrait être équilibré. Et la même chose du côté francophone. Dans ce contexte-là, tant Groen que Écolo, du côté francophone, malgré le fait qu'ils étaient dans l'opposition, au niveau fédéral, ont décidé de participer à un dialogue pour essayer de trouver une solution. Parce que c'est clair que ce pays n'a pas besoin de vivre dans un climat perpétuel de tensions communautaires. Et donc il faut être du côté de la solution. Vous disiez que ça a empêché, le fait de la chute du gouvernement a empêché de faire un certain nombre de réformes indispensables sur le plan économique et social. La situation est pire que celle-là. Parce que la crise communautaire que nous connaissons, et donc la crise politique, directement a fait réagir les marchés boursiers notamment, et qui ont revu à la hausse des taux d'intérêt qu'ils doivent appliquer à la Belgique. On a, en quelques heures, perdu une partie du refinancement, par exemple, légitime qu'on demande pour Bruxelles. C'est près de plus de 50 millions qui ont été perdus par une recotation de la situation et de la fiabilité économique de la Belgique à cause de la crise politique. Donc, je pense que les électeurs doivent être conscients que le choix qu'ils vont faire doit être un choix qui doit apporter plus d'apaisement sur le terrain communautaire. Et moi, j'encourage effectivement à voter pour des partis qui n'ont pas fait des dossiers et des crises communautaires leur cheval de bataille, mais plutôt des partis qui essayent de faire en sorte que la paix dans ce pays, et on ne parle évidemment pas la même chose de ce qui se passe en Israël, mais que la paix communautaire, ce climat où on peut se reconcentrer sur les réelles priorités, soit une priorité. Et je pense que les partis écologistes, depuis le début, ont montré qu'ils étaient, parmi d'autres, en tout cas un exemple de choix qui était positif et qui évitait d'aller vers le mur.
Alors on s'attend à une grande réforme de l'État lors de la prochaine législature. Si l'étape suivante était la régionalisation de la sécurité sociale, alors tout d'abord y croyez-vous? Et puis dans quel cas pourrait-on encore parler d'État fédéral?
Vous avez raison de dire que le ciment d'un État, c'est la solidarité qu'on peut organiser avec tous ces individus. Et on vit dans un pays un peu surréaliste, quand on écoute en tout cas certains de leurs femmes ou de leurs hommes politiques. On est un tout petit pays. On est dans un continent, l'Europe, qui connaît des difficultés économiques, stratégiques, épouvantables. On n'a jamais sans doute été aussi mal dans l'histoire de ce continent depuis très 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 longtemps. On a à côté de ça les États-Unis qui se reprennent en main. On a surtout les pays émergents comme la Chine, l'Inde, le Brésil, qui vraiment sont dans des dynamiques extrêmement fortes. Et nous, du côté européen, et nous, du côté belge, on se permet d'avoir des logiques qui essayent de se dire qu'on serait mieux en étant moins nombreux qu'en étant plus nombreux. C'est totalement ridicule. Et donc, briser la sécurité sociale, c'est évidemment briser la solidarité. Je participais à un colloque sur un thème qui n'est pas le plus important, mais qui n'est pas négligeable sur le terrain économique, le tourisme. Nous avions des pays comme l'Espagne, l'Italie et la France qui sont des grandes destinations touristiques pour lesquelles le poids en termes d'emploi et en termes de PIB est extrêmement important, qui ont décidé de se mettre ensemble pour conquérir de nouveaux marchés plutôt que de travailler de manière dispersée, alors même que ce sont normalement des marchés concurrents. Et nous, en Belgique, on est incapable jusqu'à présent d'avoir une seule image, une seule force, et de se dire que c'est ensemble, certainement autour de Bruxelles, qu'on doit faire la promotion de notre pays à l'étranger et de notre force économique à l'étranger.
Cela dit, sachant ce que le NVA exige, sachant aussi que, bon, il faut toujours se méfier des sondages, mais les pronostics annoncent la NVA premier parti de Flandre, qu'est-ce qu'on fait? On négocie, on négocie pas
Non, mais je pense qu'il est aujourd'hui impossible de se dire qu'on va passer les élections. On verra bien le résultat. Et effectivement, vous avez raison de préciser le statut des sondages. Ce n'est pas encore le résultat.
Non.
Mais on sent bien qu'il y a une montée. Je voudrais rappeler ici la responsabilité de celles et ceux qui ont refusé à un moment donné de trouver des accords. Quand on se gargarise d'être une madame non ou un monsieur non, qui résiste à toutes les propositions qui sont faites. Quand je constate ce qui était sur la table en termes de revendications flamandes il y a 3 ans et ce qu'il y a aujourd'hui, eh bien aujourd'hui on est 1000 fois plus loin malheureusement justement dans cette demande-là. Ça veut dire que si on continue à perdre du temps et à refuser tout dialogue, à refuser chacun inévitablement dans une logique où chacun doit pouvoir s'y retrouver, il faut un accord équilibré. Mais qui dit accord équilibré dit inévitablement aussi une part de compromis. Le compromis, ce n'est pas quelque chose de honteux. C'est le propre, c'est le principe même de la démocratie. Même dans un couple, on est obligé de faire des compromis. Et c'est logique si on veut continuer à vivre ensemble.
Alors justement,
eh bien ça, il faut être capable de le faire, pas à n'importe quelle condition. Et donc, si la NVA est incontournable et qu'il faut discuter avec elle, mais il faudra le faire. Je pense que c'est indispensable. On s'est déjà d'ailleurs retrouvé autour d'une même table pour avoir des discussions avec tous les partis démocratiques d'ailleurs, même le FDF, même le MR. Ça avait à ce moment-là pas abouti malheureusement. Je pense malheureusement qu'on ne peut pas se permettre de continuer à renvoyer toujours à demain, parce que ce sera toujours pire, des problèmes qu'on pourrait régler aujourd'hui.
Alors justement, concernant la scission de BHV, est-ce que pour vous la scission de BHV doit automatiquement de préférence se conjuguer avec un élargissement de la région de Bruxelles-Capitale aux communes à faciliter?
Mais s'il y a une scission pure et simple, telle qu'elle est demandée par certains au nord, c'est clair que c'est la revendication qui est faite. Cela dit, on se doute bien que ce n'est pas dans cette direction, ou en tout cas, moi, je l'espère qu'on ira. Donc, si on se met autour de la table, ce n'est pas pour avoir une scission pure et simple. Et donc, sur l'équilibre, comment est-ce qu'il va se construire? Avec quel type de compensation? Avec quel type de droit reconnu encore pour les francophones de la périphérie? Parce que, plus que les mots, élargissement, scission ou autre, ça, ce qui est important, ce sont les droits réels. Droits en matière de justice, droits politiques, tels qu'ils peuvent être exercés par les citoyens qui habitent en dehors de la région bruxelloise, dans les communes à faciliter ou dans les communes de la périphérie. Et ce qui est important de l'autre côté, c'est que les 3 régions de ce pays soient respectées et financées justement. Et donc, pour Bruxelles, par exemple, le fait d'être reconnue comme une région à part entière et qu'elle soit financée correctement, on ne demande pas plus d'argent que les autres, on demande au moins autant d'argent que les autres. Et qu'on tienne compte des dépenses qui sont prises aujourd'hui en charge par les seuls habitants de Bruxelles, qui sont déjà les plus pauvres du pays, et qui bénéficient pourtant à un public beaucoup plus important. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Et s'il y a autour de la table des partis qui sont davantage à la recherche de solutions, on les trouvera, ces solutions.
Alors, les plans d'austérité n'arrêtent pas de se succéder. On nous demande de faire ceinture, mais j'ai quand même un peu l'impression que ça fait des années qu'on nous demande de faire ceinture. Alors, finalement pour arriver à votre économie durable? Quels sont les éléments à mettre là tout de suite en place pour y arriver, en espérant un jour atteindre cet idéal?
Je constate en tout cas que, je ne vais pas citer que des écologistes, mais je vais citer des points sur lesquels le monde de l'entreprise reprend des idées des écologistes, ou le monde de la finance. On est en train de dire dans ce monde-là, justement, que l'écologie et l'économie sont des partenaires qui peuvent être parfaitement win-win. Dans le monde économique, on est bien conscient que s'il faut faire un certain nombre de restrictions dans certains domaines, et il est clair qu'il faut une rigueur dans la gestion budgétaire que l'on peut avoir, il faut aussi avoir une politique d'investissement, mais des investissements ciblés. Et que les investissements ciblés, justement dans le durable, sur l'économie qui est plus localisée, qui justement n'est pas délocalisable en termes de création d'emplois. Aujourd'hui, par exemple, dans le secteur de la construction, tous les efforts qui sont faits pour pouvoir réduire la consommation d'énergie, qui sont soutenus, efforts soutenus par les pouvoirs publics, en région bruxelloise, avec Evelyne Uttebroek notamment, comme ministre de l'énergie depuis maintenant plus de 5 ans, il y a vraiment un certain nombre d'incitants, de primes qui existent pour faire en sorte que, à la fois, on puisse soutenir le secteur de la construction et tous les métiers qui sont autour de ça. Ces dernières années, rien que ces dernières années, certainement que tout ce qui a été construit à l'initiative des pouvoirs publics, par exemple, moi, en tant que ministre du logement, on construit des logements publics, on rénove, on déploie tous les ans des moyens publics très importants pour à la fois permettre à des Bruxellois de trouver une solution en fonction de leurs revenus, mais en même temps, ça soutient le secteur. Et en faisant en sorte que ces bâtiments qu'on construise ou qu'on rénove soient beaucoup plus écologiques, évidemment que ça soutient le monde économique qui va pouvoir créer des emplois. Et là, ce ne sont pas des emplois qui sont délocalisables. C'est la même chose pour l'alimentation, qui est un secteur extrêmement important. En essayant de réfléchir pour une économie qui est plus localisée, inévitablement, on soutient nos producteurs, nos agriculteurs, ceux qui font la transformation, c'est aussi un secteur qui est important, même à Bruxelles, mais aussi dans les deux autres régions, et qui doit être soutenu. Et c'est la même chose pour les normes de produits au niveau de la consommation pour chacun des appareils, qui sont, vous voyez, les constructeurs là aussi, sur les ascenseurs qui sont beaucoup plus écologiques, sur les aspirateurs, on peut prendre n'importe quel produit. Il y a là une effusion, une créativité et un investissement dans la recherche où on sait qu'il pourra être gagnant à la fois pour l'environnement, pour l'économie, pour l'emploi et pour le portefeuille des consommateurs qui devront moins payer pour leur facture qui ira à Electrabel ou à d'autres sociétés de production. Ça ne nous intéresse pas de payer pour du pétrole ou pour du nucléaire ou pour d'autres sources d'énergie. Essayons de préserver ça et en plus, d'autant plus si ça crée de l'emploi.
Alors une dernière question parce qu'il est temps. Certains Chinois disent qu'au fond, l'écologie est le dernier argument des Occidentaux pour les empêcher de se développer. Que dire à ces Chinois ?
Et en même temps, les Chinois sont malins parce que ce sont aussi eux qui investissent énormément dans l'écologie. Ils sont en train de construire des villes totalement écologiques. Donc en même temps, c'est vrai que pour rattraper le retard sur l'Occident, ils polluent énormément. Mais en même temps, si vous regardez dans la plupart des produits qui sont des produits de pointe sur le plan écologique, mais aussi dans les techniques, ils sont à la pointe. Donc, ne les regardons pas d'un air moqueur ou d'un air donneur de leçons. Au contraire, prenons leçon sur ce qu'ils sont en train de faire et ne soyons pas le dernier continent à être celui qui aura compris que c'est l'avenir que d'investir dans l'écologie, aussi d'un point de vue économique.
Eh bien, monsieur Doulkeridis, merci beaucoup.
Merci pour l'invitation.
Merci.
Bonne soirée.
Donc, je rappelle que vous êtes le 21e candidat sur la liste Chambre Bruxelles à Lvivorde. Voilà, 18h passées de 24 minutes. Vous écoutez toujours Radio Judaïka. On enchaîne avec un jingle, un peu de musique et on se retrouve tout juste derrière pour les titres.